France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Nicolas Sarkozy, tout à la fois condamné et relaxé dans l'affaire du financement de sa campagne de 2007. Nous n'avons pas la preuve de l'utilisation d'argent libyen dans cette campagne, tranche le tribunal. Mais l'ancien président a bien laissé ses proches solliciter la Libye, dit le jugement, et il est pour cela déclaré coupable d'association de malfaiteurs. Deux de ses proches sont également condamnés. Les peines sont en train d'être prononcées. Nous allons consacrer une large partie de ce 13-14 à ce jugement avec nos envoyés spéciaux en direct du palais de justice de Paris pour tout comprendre à cette décision de justice qui a aussi des racines et des conséquences politiques. Nous verrons cela et puis nous demanderons à notre invité de l'ONG Transparency International si elle considère ce jugement comme un désaveu. À suivre encore, l'ouverture très progressive des maisons de santé, l'une des dernières en date près d'Orléans.
Ah bah alors là, ravi, c'est parce que ici c'est vraiment le désert médical quoi. J'ai des gros problèmes de santé et sans médecin c'est pas possible quoi. On vient d'arriver dans la région et c'est vraiment très compliqué.
Reportage à suivre, les finances de la mairie de Paris étriées par la Chambre régionale des comptes et puis les recettes de l'écrivain à succès Ken Follett. Une vingtaine de personnes travaillent à la promotion de ses romans. Le dernier sort aujourd'hui, on va vous emmener en coulisses. À partir de 13h30, notre invité est Romain Colucci. Son père Coluche a lancé il y a 40 ans l'appel qui allait aboutir à la création des Restos du Cœur. Son fils en est aujourd'hui l'un des porte-drapeaux. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. La réservation en ligne dans les restaurants, c'est la bataille entre sites en ce moment, va nous dire Marie-Luce Ribot du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. L'accordéoniste Vincent Perani demande Claude Nougaro à Frédéric Pommier.
De manière générale, Nougaro me ramène à ma jeunesse et cette chanson en particulier, Le coq, la pendule, tout petit, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte comme histoire ? Et en fait, je me suis laissé emporter là-dedans parce que j'ai l'impression que c'était une fable de La Fontaine.
Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
L'affaire est tentaculaire, le jugement fait 400 pages. Et voilà près de 3 heures maintenant que la présidente du tribunal correctionnel de Paris, Nathalie Gavarino, le détaille avec minutie et pour cause. La question à laquelle doivent répondre les juges est explosive. Nicolas Sarkozy a-t-il, à l'aide de ses proches, financé sa campagne victorieuse de 2007 avec l'argent du dictateur libyen Muammar Kadhafi ? Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Vous êtes en direct du palais de justice. À cette question, le tribunal répond non. En tout cas, la démonstration n'en est pas faite.
Oui, on ne peut pas démontrer que l'argent parti de Libye a financé la campagne présidentielle. Selon l'accusation, ça se serait fait avec de l'argent liquide. Le tribunal, lui, ne retient que la somme de 37 000 euros utilisés en liquide pendant la campagne, beaucoup moins que selon certains calculs de l'accusation. Et il n'y a pas de preuve que ces 37 000 euros viennent des fonds libyens, ni que Nicolas Sarkozy en était informé. Pour qu'il y ait matériellement une corruption, il faudrait aussi que Nicolas Sarkozy ait accordé des contreparties une fois élu. Or, une action positive de Nicolas Sarkozy, président, ne ressort pas de la procédure.
Ce qui ne veut pas dire, Sarah, que Nicolas Sarkozy soit totalement blanchi. Il est condamné pour association de malfaiteurs. Pour quelle raison ?
Ah bah parce que pour le tribunal, il y a bien eu un pacte de corruption. Hein. Ces rencontres occultes de deux très proches du candidat Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux et Claude Guéant, avec Abdallah Senoussi, lui très proche de Muammar Kadhafi et grand argentier du régime, n'ont de sens qu'au regard de la nécessité d'obtenir des fonds. On est en 2005 et Nicolas Sarkozy n'est pas certain d'être investi par son parti. Il est en pleine rivalité avec Dominique de Villepin. Ces fonds, ils ont été versés, retient le tribunal, par trois canaux différents, tous proches du candidat Sarkozy, indépendamment du fait que l'argent n'est peut-être pas toujours arrivé à destination et qu'au final, le Nicolas Sarkozy, qui a obtenu l'investiture, n'a finalement peut-être pas eu besoin de cet argent. Pour le tribunal, il y a bien un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Il a existé une entente en vue de préparer cette corruption au préjudice de l'État libyen jusqu'à la veille de la présidentielle.
La peine de Nicolas Sarkozy est communiquée à l'instant. Il est condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt dans l'affaire donc du financement libyen. Sarah Guibaudot, qu'est-ce que ça veut dire condamné avec mandat de dépôt ?
Bah, ça veut dire très concrètement que la présidente demande aux policiers qui sont à l'audience de se tenir prêts et qu'ils vont emmener Nicolas Sarkozy en détention dès l'issue de l'audience.
Très bien, on verra avec vous, avec Charlotte Piret aussi, qui est à l'intérieur de la salle dans laquelle le jugement est en train d'être rendu. Charlotte Piret, est-ce que vous êtes sortie de la salle? Est-ce que vous êtes avec nous?
À l'instant, oui. Vous pardonnerez que je sois un peu essoufflé, mais je vous écoute.
Il n'y a pas de problème, on vous comprend parfaitement. Vous avez écouté, et c'est très important, jusqu'au bout, le prononcé de ce jugement. Je le disais avec Sarah Guibaudot à l'instant, condamnation à 5 ans de prison avec mandat de dépôt. Est-ce que ça veut dire que Nicolas Sarkozy part en prison d'ores et déjà ou pas du tout?
Oui, totalement, parce qu'en fait, ce mandat de dépôt n'est pas immédiat à la barre, comme c'est le cas pour deux des autres condamnés qui partent en prison dès ce soir. Les policiers les ont encadrés d'ores et déjà. Pour Nicolas Sarkozy, eu égard à sa fonction, le fait, a rappelé la présidente, qu'il ne s'est jamais dérobé à ses obligations et qu'il a été présent tous les jours de l'audience qui le concernait, ce mandat de dépôt a été différé, c'est-à-dire... Voilà, qu'il aura quelques semaines ou quelques mois au maximum pour s'organiser, mais avec exécution provisoire, ce qui signifie que l'appel qu'il peut interjeter, qu'il va très probablement interjeter de cette condamnation à 5 ans de prison ne sera pas suspensif et que donc Nicolas Sarkozy va vraisemblablement être en prison là dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
Mais pas ce soir, en tout cas pas,
mais pas
pour
ce
l'instant.
Soir. Voilà. Non, il n'est pas encadré à l'instant où je vous parle. Hein, les autres prévenus pour lesquels, les autres condamnés désormais pour lesquels des mandats de dépôt ont été décidés sont immédiats. Il s'agit de Waib Nasser, notamment banquier, à ce moment-là effectivement les policiers sont venus l'encadrer. Nicolas Sarkozy lui aura le temps de s'organiser, c'est aussi dans ces termes que l'a annoncé la présidente, eu égard à ses qualités et à sa vie professionnelle.
Nicolas Sarkozy n'était pas le seul poursuivi dans cette affaire, alors Éric Woerth qui était le trésorier de la campagne a été relaxé, mais Claude Guéant et Brice Hortefeux, eux ont été condamnés. Est-ce que vous avez pu les voir réagir?
Pas encore, parce que les peines en ce qui les concerne sont en train d'être prononcées.
D'accord.
Probablement à l'instant. Je ne les ai pas encore pour vous les partager. Les réactions à l'énoncé déjà des culpabilités,
oui.
Et du fait que les associations de malfaiteurs, qui est une infraction très lourde pour laquelle tous encouraient 10 ans de prison au moment de ces prononcés des condamnations, il n'y a pas eu de réaction très franche. Des souffles un peu dans la salle qui a beaucoup réagi, mais les prévenus, eux, étaient assez stoïquement finalement assis sur leur chaise de prévenus. Ils font face au tribunal et donc son dos au public et notamment aux journalistes venus également très nombreux aujourd'hui. Pas de réaction franche, mais eu égard à la lourdeur des peines, parce que on est globalement autour des peines requises, voire un peu plus pour certains. Nicolas Sarkozy, je vous rappelle que 7 ans avaient été requis contre lui, mais il n'y avait pas eu cette question du mandat de dépôt qui est crucial. Et c'est donc de 5 ans qu'il écope avec un séjour en prison qui se rapproche pour lui. Ces peines-là, eu égard à la lourdeur de ces peines-là, la salle réagit beaucoup et on peut imaginer que les condamnés auront des réactions assez vives aussi une fois la lecture terminée.
Oui, on peut avoir du mal à comprendre, Charlotte Piret. La démonstration n'a pas été faite que de l'argent libyen ait été versé et participé au financement de la campagne de 2007. Ça, c'est ce qu'a dit le tribunal. Mais en même temps, 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé. Est-ce que la présidente s'est exprimée sur ce point?
Alors oui, c'est un délibéré qui a été longuement expliqué, puisqu'on a commencé la lecture il y a 3 heures maintenant, à 10h05 pour être très précise. Donc le tribunal a pris le temps de la pédagogie pour expliquer son raisonnement. Alors ce raisonnement, je vais tenter de vous le résumer parce que ce sont des points juridiques assez pointus. En fait, ce que retient le tribunal, c'est que effectivement il y a eu l'existence d'un pacte corruptif. C'est ce que reprochait l'accusation, notamment à Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, Claude Guéant, qu'il y a eu ce pacte corruptif parce qu'il y a eu des rencontres entre notamment Brice Hortefeux et Claude Guéant, avec Abdallah Sennoussi, rappelons, un des hommes de main très très proche du régime de Muammar Kadhafi et qui avait la main sur les finances, pour la faire un peu courte, vous me pardonnerez. Donc il y a eu ces rencontres, il y a eu ces discussions sur l'idée de « on finance la campagne de Nicolas Sarkozy en échange de contreparties économiques, diplomatiques et judiciaires ». Tout cela a été retenu par le tribunal. En revanche, ce qu'il se passe, c'est qu'au moment où ce pacte corruptif est conclu, Nicolas Sarkozy est candidat et il n'est pas encore président. Il n'est donc pas personne dépositaire de l'autorité publique. C'est ce statut-là qui est nécessaire pour être rentré dans la définition de la corruption. Il ne l'est pas à l'époque, donc la corruption en tant que telle n'est pas caractériser. C'est ça l'argument ou le décortiquage juridique auquel s'est livré le tribunal ce matin. En revanche, donc, de ce fait-là, la corruption, l'infraction de corruption n'est pas là, mais en revanche, selon le tribunal, tous les éléments pour la mettre en place, c'est-à-dire l'association de malfaiteurs, ce groupement qu'on organise en vue de mettre en place un crime ou un délit qui est donc la corruption, cette association de malfaiteurs, elle tient. Et c'est donc eu égard à cette association de malfaiteurs, eu égard au fait d'une gravité exceptionnelle, a rappelé à l'instant la présidente dans la lecture du délibéré, qui ont été commis par une personne qui, au moment des faits, occupait déjà des fonctions ministérielles, a-t-elle rappelé, chargée de veiller au respect de la Constitution. Tous ces éléments-là ont pesé pour justifier, selon le tribunal correctionnel de Paris, là à l'instant, cette condamnation, je le rappelle donc, à 5 ans d'emprisonnement pour Nicolas Sarkozy, avec un mandat dépôt différé, donc d'ici quelques semaines ou quelques mois, avec exécution provisoire.
J'ajoute une condamnation à 2 ans de prison pour Brice Hortefeux, l'ami, le lieutenant fidèle de Nicolas Sarkozy, ancien ministre de l'Intérieur, également condamné à 2 ans de prison avec exécution provisoire, une peine aménageable avec détention à domicile possible, précise le tribunal à l'instant. Sarah Guibaudot, Charlotte Piré, je vous garde évidemment au palais de justice. Accueillons Maxence Tambrec. Bonjour Maxence.
Bonjour.
Chef du service politique de France Inter. 5 ans de prison avec mandat de dépôt, même différé, pour Nicolas Sarkozy. C'est un choc.
Un événement majeur dans notre vie politique sous la Ve République, c'est évidemment inédit. Nicolas Sarkozy dormira bientôt en prison. C'était inimaginable le jour des premières mises en examen dans cette affaire. C'était il y a plus de 10 ans avec la mise en examen de Claude Guéant. C'est inédit aussi presque en Europe pour un ancien dirigeant aussi haut placé pendant 5 ans au pouvoir et condamné à de la prison ferme et à une prison immédiate. Il a toujours imaginé s'en sortir. Il a toujours imaginé qu'en effet le montage juridique ne tenait pas, parce que oui, le tribunal le reconnaît, il n'y a aucune preuve que de l'argent libyen ait permis sa victoire d'une certaine manière, ait permis sa campagne de 2007, mais cette association de malfaiteurs est caractérisée selon le tribunal. Il aura beau faire appel dans quelques semaines, il sera en prison. Il est arrivé avec sa femme ce matin, lui tenant la main de Carla Bruni. Ses enfants aussi étaient là dans cette salle pour la première fois, ce qui montrait aussi qu'il avait en tête le moment qu'il allait vivre. C'est un événement majeur pour notre histoire politique. Pour l'instant, les réactions ne se font pas. Sébastien Lecornu, oui, le Premier ministre, était dans le bureau de Nicolas Sarkozy au lendemain de sa nomination. Il continue à peser sur notre vie politique. Il continue de donner des interviews et des conseils à tous ceux qui aspirent à la fonction présidentielle. Pour l'instant, on attend les réactions, mais on savait pour beaucoup de personnes dans la classe politique que cette journée était difficile à gérer, notamment pour Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur et président du parti que Nicolas Sarkozy a dirigé.
À l'instant, Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur, lui aussi, et secrétaire général de l'Élysée, est condamné à 6 ans de prison, mais sans mandat de dépôt pour lui, en raison de son état de santé. Information communiquée à l'instant donc au tribunal. Vous vous trouvez, Sarah Guibaudot. Nicolas Sarkozy, jusqu'ici, avait réussi à échapper à la prison lors de ses condamnations précédentes.
Mais là, en effet, la présidente a estimé que c'était des faits d'une particulière gravité. Elle a dit qu'il y avait une atteinte à l'équilibre de l'ordre social. Et c'est vrai qu'on est dans une affaire, voilà, d'une autre ampleur que l'affaire des écoutes Bismuth, où Nicolas Sarkozy avait été condamné à 1 an ferme pour corruption, ce qui lui a valu le port d'un bracelet électronique pendant 5 mois. Et de l'affaire Big Malion, le financement de sa campagne de 2012, pour laquelle il a été condamné à un an de prison, dont 6 mois ferme. Son pourvoi en cassation doit d'ailleurs bientôt être examiné.
Avant de donner la parole à Sarah Brimboeuf, responsable plaidoyer à Transparency International, qui sera avec nous dans un instant, Maxence Lambrec, il faut quand même rappeler que l'origine de cette affaire, ça n'est pas rien, c'est l'élection présidentielle de 2007, c'est-à-dire le cœur de la vie démocratique française.
Bien sûr, et derrière cette élection présidentielle, quel est le lien, quel est le lien que Nicolas Sarkozy aurait pu avoir avec la Libye de Kadhafi, et ensuite ça pouvait déteindre sur évidemment toute son accession au pouvoir, et ensuite son indépendance d'une certaine manière, l'indépendance du président qu'on élit aujourd'hui. Le financement de campagne est particulièrement contrôlé, c'est aussi un message envoyé conseiller à tous ceux qui se lanceront dans la course en 2027. Ce moment majeur, comment financer sa campagne, avec quel lien vous démarrez votre vie politique et votre mandat. Nicolas Sarkozy est donc condamné pour association de malfaiteurs dans ce cadre et en effet bientôt en prison avec mandat de dépôt.
Bonjour Sarah Brimboeuf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le 13-14 de France Inter, responsable plaidoyer à Transparency International, votre ONG qui est partie civile dans ce procès. Pas de condamnation pour Nicolas Sarkozy pour association, condamnation, pardonnez-moi, pour Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs, mais relaxé pour les faits de corruption qui lui étaient reprochés et 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé. Comment est-ce que vous réagissez à cette peine ?
Alors, on réagit, on relève comme vous les éléments d'une exceptionnelle gravité, la peine qui est très lourde, qui est inédite pour un ancien président en France, mais ailleurs aussi en Europe. Donc, on relève inédit aussi la condamnation d'un ancien président pour association de malfaiteurs et de manière plus large, en fait, c'est très rare, voire inédit, on a fait la comparaison, que d'anciens hauts fonctionnaires, hommes d'État, ministres soient condamnés pour cette infraction qui relève plutôt du domaine de la délinquance, criminalité organisée, délinquance organisée, voilà, du domaine mafieux. Donc c'est inédit. Je crois que la présidente a voulu vraiment marquer la décision, marquer le procès. Et vous l'avez, je ne vais pas le répéter, mais vous l'avez déjà dit. On parle de faits qui entourent une élection présidentielle, celle de 2017. On parle de la rencontre d'hommes, de fonctionnaires, de ministres avec un ancien terroriste en Libye. Donc les faits sont quand même à la hauteur de la condamnation, même s'il y a eu relax sur la corruption qui est, je le rappelle, une infraction dont la preuve est très difficile à réunir. Et dans ces dossiers, en fait, on voit toujours les mêmes schémas. Ce sont les seconds couteaux, il y a des proxys, on coupe les fils souvent de la responsabilité pénale autour de l'acteur principal. Et bien inédit, mais courageux de la part de la présidente d'avoir utilisé cette infraction d'association de malfaiteurs pour justement éviter de retomber dans la difficulté inhérente à cette infraction de corruption.
Même si Sarah Brimboeuf, la présidente, l'a dit ce matin à la lecture du jugement, la procédure n'a pas permis de démontrer que de l'argent parti de Libye avait été au final utilisé dans un financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy.
Non, d'où la relaxe pour financement illégal de campagne. Mais l'argent n'a pas d'odeur. L'argent liquide, l'argent est difficile à tracer. Il y a eu cette relaxe sur cette infraction, mais il faut le noter sur l'association de malfaiteurs. Et on a imaginé plusieurs scénarios. Celui-ci emportait en tout cas. On l'a scruté, on l'a préparé bien en amont, et ça permet d'expliquer en fait sans. Sinon, on n'explique pas toutes ces réunions, cette entente pour préparer l'infraction qui, même si la matérialité n'est pas démontrée, l'entente, les réunions, les réunions en Libye avec les différents dignitaires, avec Della Senoussi, ne s'expliquent pas sans cet écosystème, sans cet environnement, d'où la condamnation.
Mais vous pensez que le grand public va comprendre ce jugement ? Pas de démonstration que de l'argent ait été utilisé libyen dans la campagne, mais cette peine lourde, très lourde, vous l'avez dit, 5 ans de prison.
Alors, il y a un effort de pédagogie. D'ailleurs, on relève et on salue ces 4 mois, quasiment 4 mois de procès qui ont permis de faire, dans un climat apaisé, malgré des attaques contre les juges. On a entendu sur plusieurs plateaux des attaques de juges militants, de juges rouges. Il y a eu un climat apaisé. On a pu faire la lumière sur les faits. Le tribunal a pesé, a pu prendre sa décision de manière indépendante et impartiale. Il y a encore de la pédagogie à faire. Vous le disiez, c'est extrêmement complexe. Oui. L'infraction en elle-même est complexe. Donc, il y aura de la pédagogie à faire. Mm-hmm. Et surtout, on l'appelle ne pas tomber dans les poncifs populistes de parler de gouvernement des juges, ce qui est complètement faux et très délétère pour nos démocraties. C'est de ça dont il est question. C'est un jugement dans un état de droit qui a été solide malgré tout.
Merci Sarah Brimboeuf, responsable du plaidoyer à Transparency International. Nous parlons déjà avec vous des réactions. Maxence Lambrecht, je veux tourne vers vous. Vous nous disiez il y a quelques minutes, il n'y a pas encore beaucoup de réactions, il y en a peut-être un peu plus.
Ça arrive, oui, la patronne des écologistes, Marine Tondelier, sur le réseau social X. Merci à Nicolas Sarkozy et aux Républicains de toujours montrer l'exemple avec pour affiche, pour photo, le nouveau slogan du parti de Bruno Retailleau, la France des honnêtes gens, et une photo de Nicolas Sarkozy à côté de François Fillon, lui aussi condamné par un tribunal. C'est la toute première réaction.
Merci Maxence Lambrecht, chef du service politique de France Inter. Guibert, je vous garde à mes côtés. Maxence, on va revenir et en longueur sur cette condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé à partir de 13h30 avec nos nombreux invités. Pour l'heure, il est 13h20.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Dans l'actualité de ce jeudi, il y a également les choix de Sébastien Lecornu, ses choix pour le budget 2026. Il doit en dire davantage ce soir, interview au journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Le nouveau Premier ministre aura en tout cas noté ce chiffre, tombé ce matin. La dette publique a encore augmenté au deuxième trimestre. Elle atteint désormais plus de 115% du PIB, soit 3 416 milliards. C'est un record. Alors pour l'instant, le Premier ministre a fait très peu d'annonces, à part celle-ci. Parvenir au chiffre de 5 000 Maison France Santé en 2027. Il faut dire que le manque de médecins est toujours aussi criant dans notre pays. Illustration tout près d'Orléans, à Saint-Jean-le-Blanc, où une maison de santé, justement, a ouvert le 1er septembre. Et le médecin généraliste qui vient de s'installer compte déjà 1800 patients. Reportage Julien Penaud.
La secrétaire médicale du nouveau médecin généraliste en a été la première témoin.
Il y avait des centaines de personnes à l'ouverture. Du coup, ça a été compliqué, mais il s'en est sorti.
Il, c'est donc le docteur Brice Sulter, qui prend en charge jusqu'à 45 patients par jour, comme aujourd'hui Chantal, 78 ans, installée à Saint-Jean-le-Blanc depuis un an. Elle a enfin trouvé son médecin traitant.
Ah bah alors là, ravi. Parce que ici, c'est vraiment le désert médical, quoi. J'ai des gros problèmes de santé, sans médecin, c'est pas possible, quoi. On vient d'arriver dans la région et c'est vraiment très compliqué.
Constat partagé par son mari, Jean, 83 ans, venu également pour un premier bilan de santé.
Les médecins qui ont leur cabinet ici, ben, c'était complet, archi-complet. Donc, on a eu le bonheur de trouver un médecin qui voulait s'implanter dans la maison médicale.
Brice Sulter, médecin généraliste. Il y a une véritable gratitude parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une véritable demande et un peu un trou dans la démographie de la région orléanaise. C'est-à-dire qu'il y a des maisons de santé un peu dans toutes les autres villes et qu'à Saint-Jean-le-Blanc, c'est vraiment une première. C'est-à-dire que j'ai des patients qui viennent me voir en me disant que ça fait 5 ans qu'ils cherchent un médecin traitant, 3 ans. Des patients qui ont des pathologies chroniques qui sont renouvelées par des pharmaciens. Donc oui, on s'aperçoit vraiment qu'il y a une tension quotidienne.
Tension qui a des chances de s'améliorer avec l'arrivée d'un deuxième médecin en novembre, puis d'un troisième en mars 2026.
Explication ici Orléans. Je vous parlais de la dette publique de la France. Là, il s'agit de celle de la ville de Paris. Elle n'a cessé de croître ces dernières années et dépasse désormais les 9 milliards d'euros selon les estimations de la Chambre régionale des comptes qui vient de transmettre son rapport aux équipes de la maire, Anne Hidalgo, qui n'a pas tardé à répliquer. En tout cas, Sonia Gobry, la Chambre régionale des comptes, décrit une situation dégradée.
Oui, dégradée au point que la ville ne peut plus financer ses investissements autrement que par de l'emprunt, alors que la dette a déjà gonflé de 2 milliards d'euros en 3 ans. Les rapporteurs relèvent aussi que la municipalité a déjà épuisé plusieurs marges de manœuvre pour trouver de nouvelles recettes sans que cela suffise. Mais la Chambre régionale des comptes concède que plusieurs réformes ont affecté le financement des collectivités territoriales et souligne une politique d'investissement ambitieuse en faveur des logements sociaux ou encore de la transition écologique. De son côté, Anne Hidalgo, dans sa réponse au magistrat, dénonce de nombreuses erreurs factuelles, des contresens, des omissions. L'un de ses adjoints se dit interloqué par la rapidité de cette enquête, menée selon lui en 8 mois au lieu de 2 ans pour le précédent rapport. Il s'interroge sur le calendrier parce qu'en effet, ça tombe mal. À 6 mois des municipales, les opposants n'ont pas manqué de s'emparer de ce rapport, eux qui accusent régulièrement Anne Hidalgo de brûler l'argent des Parisiens.
Précision signée Sonia Gobry. Il faut être intraitable, la fermeté ce matin sur Inter de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, au sujet des incursions de drones et d'avions russes dans le ciel européen ces derniers jours. Car après la Pologne et la Roumanie, des drones ont survolé des aéroports du Danemark la nuit dernière, sans qu'on sache précisément qui les pilotait. Puis il y a quelques minutes, la police norvégienne a annoncé avoir saisi hier un drone tout près de l'aéroport international d'Oslo. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Bon, ces incidents sont assez différents ces derniers jours. Est-ce qu'on peut faire le point avec vous?
Oui, alors les faits tout d'abord, des drones ont été repérés près de 4 aéroports danois, un dans le nord, un à l'ouest et 2 dans le sud. On sait que les drones ont survolé les lieux avant de repartir. Cela a eu des conséquences, notamment la fermeture de l'aéroport de Aalborg, l'un des plus grands aéroports du pays, après celui de la capitale Copenhague. Les autorités expliquent qu'il n'a pas été possible d'abattre ces drones, qui ont quand même survolé une très vaste zone pendant plusieurs heures. Ce qui est certain, c'est qu'ils volaient à basse altitude et qu'on pouvait les voir depuis le sol. Une enquête a donc été ouverte en collaboration avec les services de renseignement danois et l'armée, dans le but de clarifier les circonstances de ces vols, d'autant qu'ils interviennent après d'autres incidents du même type. Lundi déjà, des drones à l'origine non identifiés avaient survolé l'aéroport de Copenhague ainsi que celui d'Oslo en Norvège, pays voisin donc, bloquant leur trafic pendant plusieurs heures. La première ministre du Danemark a dénoncé l'attaque la plus grave contre une infrastructure critique dans le pays. Elle a affirmé ne pas exclure qu'il s'agisse donc de la Russie. L'ambassadeur de Russie au Danemark a nié toute implication de son pays dans l'incident survenu.
Explication Nathanaël Charbonnier à New York après la reconnaissance de la Palestine comme État en début de semaine par plusieurs pays, dont la France. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, 89 ans, s'exprimera ce soir devant l'Assemblée générale des Nations unies par vidéo, car les autorités américaines ont refusé de lui accorder un visa. C'est une catastrophe pour le patrimoine normand. Un incendie a partiellement détruit la nuit dernière le château de Médavie, date du XVIIIe siècle, classé monument historique tout près d'Argentan, dans l'Orne. Une partie des œuvres d'art qui l'abritaient ont également disparu suite à cet incendie. C'est l'événement littéraire de la semaine, la sortie du dernier roman de l'écrivain gallois Ken Follett. Ses 40 premiers romans, dont Les Piliers de la Terre, se sont vendus à près de 200 millions d'exemplaires. Le dernier, Le Cercle des Jours, raconte l'édification du mythique site de Stonehenge dans le sud de l'Angleterre. Alors c'est une sortie mondiale, traduction dans 40 langues. Bonjour Ilana Mor-Youssef.
Bonjour.
Vous avez pu rencontrer la femme de Ken Follett qui est en fait à la tête d'une véritable machine à vendre.
Oui, je vous propose de l'écouter.
My name is Barbara Follett. I'm married to Ken Follett, the author, and I am also Ken Follett's agent.
Voilà Barbara Follett, épouse de l'écrivain depuis 40 ans et son agent depuis 2012. Après son retrait de la vie politique, elle a été ministre travailliste de la Culture, elle a mis sur pied ce qui est devenu le Follett Office, une équipe d'une vingtaine de personnes exclusivement au service de la machine Follett.
Oui, c'était mon idée. Ken didn't know how many books he'd sold.
Ken ne savait pas combien de livres il avait vendus. Avec ma collègue Charlotte, nous avons décidé de jeter un œil aux finances. Nous avons rassemblé plusieurs milliers de contrats. Ça nous a pris 2 ans. Nous avons ensuite analysé le tableau. Nous voulions utiliser ces informations pour conquérir de nouveaux marchés et développer les anciens.
Aujourd'hui, Ken Follett a plus de 500 contrats d'édition en cours à travers le monde. Il est traduit dans une quarantaine de langues. Et Barbara garde un œil sur tout, gare aux éditeurs mauvais payeurs.
On a organisé une réunion avec Ken. On lui a présenté la situation dans un langage très clair. Nous lui avons aussi dit ce que nous avions découvert. Ses éditeurs lui devaient 3,5 millions d'euros. Nous sommes allés chercher cet argent et nous l'avons récupéré.
Et en plus de l'aspect financier, le Follett Office gère absolument tout ce qui est relatif à l'écrivain. Début septembre, pour la présentation de son nouveau roman à la presse européenne, le Follett Office a privatisé le site de Stonehenge. C'est comme si en France, on privatisait les grottes de Lascaux, une organisation parfaitement huilé, avec un risque d'erreur proche de zéro.
Merci Ilana Mor-Youssef. Le Cercle des Jours de Ken Follett est publié aux éditions Robert Laffont. Voilà un retour qui fait plaisir. 5 ans après son effroyable accident qui a failli le tuer, c'était lors du Grand Prix de Bahreïn, le pilote de Formule 1 français Romain Grosjean va de nouveau piloter une F1. Ce sera demain lors d'un test privé en Italie avec l'écurie Haas. 13h28 sur Inter.
Bienvenue chez Écoutez Voir.
Et là, vous entendez mieux?
Et s'il suffisait de pousser la porte pour bien l'entendre? Eh oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien l'entendre. Écoutez Voir, optique et audition.
Mutualiste.
Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr.
Parce que l'on a tous un proche victime du cancer, on sait à quel point il est important d'aider la recherche. C'est pourquoi Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, s'est fixé l'objectif de guérir le cancer au XXIe siècle. En désignant l'Institut Gustave Roussy comme bénéficiaire d'un legs, d'une donation ou d'une assurance vie, vous donnez à nos chercheurs et à nos médecins les moyens de sauver des vies. Appelez dès maintenant le 0800 710 400 pour recevoir notre brochure legs, donation et assurance vie.
France Inter, partenaire du nouveau film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre.
This is Bob Ferguson. I was a part of the French 75.
Vive la révolution !
Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit caché avec sa fille Willa. Quand elle disparaît, Bob est embarqué malgré lui dans une course-poursuite effrénée.
I need to find my daughter.
Une bataille après l'autre, avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro et Regina Hall. Actuellement au cinéma, un film France Inter.
13h30 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, nous revenons sur la condamnation de Nicolas Sarkozy ce matin à 5 ans de prison avec un mandat de dépôt différé. L'ancien président de la République ira en prison dans les prochains jours, les prochaines semaines. Condamnation pour association de malfaiteurs. On va revenir longuement sur ce jugement rendu ce matin par le tribunal correctionnel de Paris. 13h45, notre feuilleton sur le chantier de la basilique de Saint-Denis qui veut retrouver sa flèche. Et puis 13h50, c'est la France et c'est une chanson, Marilus Ribot, les dessous des sites de réservation de resto, et avec Frédéric, un accordéoniste de jazz, le coq et la pendule, ce sera Claude Nougaro.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel, à retrouver sur malongo.com.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Un temps encore humide et frais.
Oui, on garde le parapluie à portée de main. Quelques pluies cet après-midi du Grand Est vers le centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, le Massif central et Rhône-Alpes. De la neige au-dessus de 1900 mètres sur le nord des Alpes. En allant vers la Manche et vers l'océan, là on peut espérer quelques éclaircies appréciables, surtout vers l'ouest de la Bretagne et sur l'Aquitaine. Quelques averses restent malgré tout possibles de temps en temps. Il y a toujours un vent de nord-est sur les côtes de la Manche. Et pour avoir un soleil plus franc direction la Méditerranée, mais encore au prix du vent, sur la Corse, plus de nuages malgré tout, quelques averses possibles. Et puis les températures restent bien fraîches pour la saison. Alors 12 à 16 degrés sur un grand quart nord-est, 16 à 19 sur la façade ouest, jusqu'à 20 à 24 en Méditerranée. Pour demain, pas de surprise, hein, encore beaucoup de nuages, un peu de pluie et de la fraîcheur.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Le programme de ce 13-14, chamboulé par l'actualité judiciaire et politique du jour, la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé. Nous allons consacrer à cette actualité les prochaines minutes de ce 13-14 avec cette information qui nous est parvenue en plusieurs temps finalement tout au long de la matinée. Maxence Lambrec, service politique de France Inter, toujours à mes côtés. Nos invités dans un instant. Sarah Guibaudeau, toujours au Palais de Justice. Sarah, on a appris petit à petit finalement quel allait être l'avenir de Nicolas Sarkozy avec peu après 13 heures cette information essentielle, cette condamnation avec mandat de dépôt différé. Ça veut dire que l'ancien président de la République va aller en prison. Est-ce qu'on connaît le délai, Sarah?
Non, honnêtement, je ne connais pas le délai. Il est censé être bref. Nicolas Sarkozy doit avoir le temps de s'organiser, de préparer ses affaires. Et ensuite, il est incarcéré. Alors, incarcéré pour 5 ans, c'est donc une peine qui n'est pas aménageable tout de suite. Hein, mais en raison de son âge, quand on a plus de 70 ans, il pourra faire, dès qu'il sera incarcéré, une demande de libération conditionnelle. En fait, la présidente, avant de prononcer les peines, elle a aussi rappelé le cadre de la loi, c'est-à-dire les peines, elles sont prononcées en fonction de la nature des faits et du casier judiciaire. Donc Nicolas Sarkozy, la présidente, a souligné que les faits d'association de malfaiteurs étaient d'une particulière gravité et aussi qu'il avait de précédentes condamnations pour des faits commis par un ancien président de la République.
Donc les condamnations dans les affaires Bismuth, dans les affaires Big Malion ont pesé.
Oui, forcément, ouais. Ça fait le casier judiciaire du prévenu, ouais. Nicolas Sarkozy.
Il faut organiser tout cela, Sarah Guibaudeau, un ancien président de la République en prison, c'est du jamais vu et ça va forcément demander aussi du temps à la justice pour s'organiser. Des responsables politiques, oui, un ancien président de la République, ça c'est jamais vu.
Alors oui, alors si vous me demandez s'il a une cellule ou un régime carcéral particulier, pour autant, je ne suis pas sûre. Enfin, la justice a l'habitude d'avoir des détenus un peu VIP, comme on dit, hein, et avec qui il faut prendre des précautions. De fait, un certain, pas forcément un isolement total, mais en tout cas des conditions de sécurité par rapport aux autres prévenus. Pendant longtemps, c'était par exemple la maison d'arrêt, la prison de la santé à Paris, hein, qui jouait ce rôle-là. Là, honnêtement, à l'heure où nous parlons, je ne sais pas vous dire ce qui a été prévu, mais c'est pas quand même. Enfin voilà, l'administration pénitentiaire est quand même aussi habituée à gérer des détenus un peu particuliers.
Et donc ça, ce sera le rôle, Maxence Lambrecq, notamment des fonctionnaires qui sont sous l'autorité de Gérald Darmanin.
Et oui, Gérald Darmanin, fidèle parmi les fidèles, qui a été le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy pendant la primaire de 2016, qui se retrouve aujourd'hui ministre de la Justice et toujours très proche. Régulièrement, ils ont des rendez-vous plus ou moins privés entre eux et en effet au gouvernement, que ce soit Gérald Darmanin ou Bruno Retailleau, patron aujourd'hui du parti que Nicolas Sarkozy a dirigé. Le silence, la stupeur aussi qu'on peut deviner là dans les quelques minutes qui se sont déroulées depuis l'annonce de cette peine. Beaucoup de téléphones en mode silencieux, beaucoup de téléphones qui donnent sur le répondeur. Nous avons beaucoup de mal à joindre des membres du gouvernement, des élus. Là, le sénateur LR Stéphane Le Rudelier appelle à la grâce du président Sarkozy. Un tsunami de honte. Je demande au président Emmanuel Macron la grâce du président Sarkozy. Un geste, dit-il, indispensable pour la nation et la dignité d'un homme comme de la fonction. Première demande qui vient donc d'un sénateur des Bouches-du-Rhône, sénateur LR. Et on imagine qu'il y en aura d'autres tout au long de cette journée. Une demande de grâce présidentielle.
Charlotte Piré, vous êtes en direct du tribunal correctionnel de Paris. Est-ce qu'on sait où est Nicolas Sarkozy en ce moment, Charlotte ?
Écoutez... Alors, il est derrière une foule de caméras. Hein. C'est vraiment l'affluence des très grands jours aujourd'hui. Je viens de sortir de la salle il y a une minute à peine et il était entouré encore à ce moment-là de ses proches, hein, qui ont fait bloc autour de lui dès l'audience levée. À la fois ses communicants, ceux qui l'ont accompagné pendant ce procès, et puis aussi évidemment son épouse Carla Bruni qui était là pour aujourd'hui, ses fils non loin. Voilà, il y a eu un effet de masse et de foule autour de Nicolas Sarkozy dans le prétoire, et eu égard à l'agitation des caméras, mais ce n'est que supputation de ma part, parce que je suis trop petite pour voir, pour tout vous expliquer, je crois qu'il est en train de sortir de la salle.
Est-ce qu'il est prévu une prise de parole, par exemple, de ses avocats ? Charlotte Piré, en direct du Palais de Justice de Paris. On va vous retrouver dans une minute, évidemment, s'il y a une réaction soit de Nicolas Sarkozy, soit de l'un de ses avocats. On vous la fera vivre en direct. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, Maxence?
Nous pouvons accueillir le sénateur des Bouches-du-Rhône dont je venais de parler, Stéphane Le Rudelier. Bonjour, monsieur. Vous êtes avec nous? Non, peut-être pas encore. Il appelle à la grâce.
Je suis avec vous. Ah, oui.
Bonjour, sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Merci d'être...
Absolument, oui.
Merci d'être en direct avec nous dans ce 13-14. Comment vous avez réagi ce matin à l'énoncé du jugement du tribunal correctionnel de Paris ?
Écoutez, beaucoup d'écœurement, de stupéfaction par rapport à la lourdeur de la peine. Il faut savoir quand même que dans le cadre du rendu, c'est quelque chose qui est incompréhensible. On dit que la note de Mediapart est considérée comme faux, qu'il n'y a pas eu de financement illégal de la campagne présidentielle de 2016, ni d'enrichissement personnel, ni de corruption. Et pour autant, on condamne à la prison ferme, avec exécution immédiate, le président Sarkozy. Je trouve que ça abîme nos institutions.
Je vous coupe parce que Nicolas Sarkozy prend la parole au Palais de Justice de Paris. Il vient de sortir.
Aujourd'hui, dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris, est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Le tribunal a été plus loin en déclarant solennellement que le document Mediapart, qui était à l'origine de cette procédure, était, je cite, un faux. J'ai été renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits. Sur 3, j'ai été relaxé. Pas de financement trouvé, pas de corruption. Je suis donc condamné pour avoir prétendument laissé faire 2 de mes collaborateurs qui auraient eu l'idée d'un financement illégal de ma campagne. Depuis toutes ces années, j'ai assumé toutes mes responsabilités. Je n'ai naturellement refusé aucune audience. J'ai été mis en garde à vue. J'ai été interrogé, ausculté, examiné. De telle façon que la présidente du tribunal a dit « Il n'y a aucun enrichissement personnel à vous reprocher. » Pas de financement illégal de ma campagne, pas d'enrichissement personnel. Et la conclusion qu'en tire le tribunal, c'est que je dois passer 5 années en prison, et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités, le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. C'est cette injustice invraisemblable auquel vous venez d'assister. Je n'ai aucun esprit de revanche. Je n'ai aucune haine. Mais que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Je vous remercie.
Les premiers mots de Nicolas Sarkozy à sa sortie de la salle d'audience du palais de justice de Paris après sa condamnation à 5 ans de prison dans le dossier libyen condamné pour association de malfaiteurs. Ce jugement est d'une gravité extrême pour l'état de droit. La haine n'a aucune limite. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Voilà ce que dit à l'instant l'ancien président de la République, Charlotte Piré. Vous avez assisté à cette prise de parole. Nicolas Sarkozy avec derrière lui ses avocats et à ses côtés son épouse.
Oui, tout à fait, hein, Carla Bruni qui est arrivée avec lui ce matin et qui avait déjà assisté à quelques-unes des audiences qui s'étaient tenues en début d'année, qui s'est tenue à ses côtés, ses avocats, vous l'avez dit, ses fils ne sont pas loin également parce qu'ils sont venus pour cette journée assez particulière. Et donc Nicolas Sarkozy, dont le ton est un peu, alors certes moins combatif, on peut dire, et sans doute un peu abasourdi par cette condamnation et notamment cette incarcération qui se dessine et que très peu avaient vu venir, il faut le reconnaître, un peu plus abasourdi, un peu moins combatif que ce qu'on l'a connu à l'audience, mais sur la même ligne finalement, puisqu'il crie à l'injustice, à son innocence, et rappelle un peu ces éléments de langage ou ces éléments de défense, en tout cas, qu'on l'a entendu dire tout au long de ce procès.
Oui, Nicolas Sarkozy qui apparaît toujours combatif, Maxence Lambrec, à l'issue de ce jugement.
En se projetant déjà au procès en appel, avec potentiellement les menottes au poignet lors de ce futur procès. Oui, en disant que jusqu'au dernier souffle, il a aujourd'hui 70 ans, il se projeterait, il se battrait pour prouver son innocence dans tous les dossiers, dans ce dossier notamment l'association de malfaiteurs. La réaction qu'on attendait, c'est le Marine Le Pen. Eh bien, Marine Le Pen vient de s'exprimer via le réseau social X et elle dénonce le double exécution, l'exécution provisoire dont elle a fait aussi l'objet pour l'inéligibilité. Marine Le Pen dit, au-delà de la personne de l'ancien président Nicolas Sarkozy, la négation du double degré de juridiction par la voie de la généralisation de l'exécution provisoire et donc de ce mandat de dépôt représente un grand danger au regard des grands principes de notre droit, au premier rang desquels se trouve la présomption d'innocence. Et Marine Le Pen, elle-même condamnée, fera appel de son jugement.
Charlotte Piret, est-ce que vous êtes toujours avec nous ?
Tout à fait, oui.
D'un mot, je voudrais une précision sur le document Mediapart. Ça fait deux fois qu'on y fait référence depuis quelques minutes. Invalidé, dit Nicolas Sarkozy à l'instant en direct par la présidente du tribunal. Qu'est-ce que c'était que ce document, son importance dans la procédure ? Et effectivement, il a été balayé par la présidente ce matin ?
Oui, effectivement, hein, la présidente l'a écarté en estimant qu'il était très vraisemblablement un faux, que c'était qu'effectivement il y a plusieurs choses qui ne corroboraient pas. Mais sachez déjà que le parquet national financier lui-même, au fil de l'audience, n'en avait pas du tout fait un élément central de l'accusation, en estimant qu'il y avait énormément d'autres éléments et d'autres faisceaux qui permettaient de conclure à la fois à l'association de malfaiteurs pour laquelle donc Nicolas Sarkozy a été condamné et à la corruption pour laquelle il a été relaxé, mais au motif très précis et juridique du fait qu'il n'était pas personne dépositaire de l'autorité publique à ce moment-là, parce que pas encore président. Et donc, effectivement, il a été écarté. C'est un des éléments qui est mis en avant par la défense pour dire que ce qu'on avait présenté comme une pièce maîtresse ne l'est pas. L'accusation, elle, ne soutient pas cette ligne, et d'ailleurs le tribunal non plus, puisqu'il a motivé un jugement de condamnation sans avoir besoin, finalement, de ce document. C'est comme ça que ça a été expliqué ce matin.
Merci Charlotte Piret pour ces dernières précisions. Stéphane Le Rudulier, vous êtes toujours avec nous, sénateur oui, LR des Bouches-du-Rhône. Vous venez d'entendre Nicolas Sarkozy extrêmement combatif. Vous en appelez à Emmanuel Macron ?
Absolument. Je pense qu'il n'y a qu'Emmanuel Macron qui peut gracier le président Sarkozy. Il en va, à mon sens, du respect de nos institutions. Comme je vous l'ai dit en introduction, et ça a été repris par le président Sarkozy, la note de Mediapart a été écartée puisque considérée comme faux. Il n'y a pas eu de financement illégal de la campagne, pas d'enrichissement personnel, pas de corruption, et que les preuves promises par le clan Kadhafi ne sont jamais arrivées. Et pour autant, on a une lourdeur au niveau de la peine qui est totalement incompréhensible. Et on a bel et bien l'impression que certains juges, ou en tout cas le corpus judiciaire a voulu se payer l'ancien président de la République, et c'est la raison pour laquelle j'en appelle au président de la République pour rétablir un peu de l'ordre dans nos institutions et ne pas abîmer la fonction présidentielle, puisque derrière cela, c'est bel et bien la fonction présidentielle qui est abîmée.
Mais en quoi nos institutions n'ont pas été respectées dans ce jugement ?
Ben écoutez, quand il n'y a aucune preuve et qu'on condamne un homme, quel qu'il soit, je pense qu'il n'y a pas de respect pour l'institution judiciaire. Et donc, et qui plus est, de surcroît, quand c'est un ancien président de la République. Et c'est la raison pour laquelle le juge de paix, c'est bien, bel et bien dans notre Constitution, c'est le président de la République. S'il considère que l'institution judiciaire est allée beaucoup trop loin, alors il peut et il doit, à mon sens, rétablir la vérité en graciant le président Sarkozy.
Est-ce que vous faites confiance à la justice tout de même? Il y aura un appel et Nicolas Sarkozy a dit à l'instant son intention de faire appel.
Écoutez, je ne sais pas s'il a l'intention de faire appel. En tout cas,
il vient de le dire.
Mais ça n'évitera pas le passage à la case prison, puisqu'il y a cette fameuse exécution provisoire. Exécution provisoire qui, en pénal, n'a pas de recours, alors que dans une procédure civile, il y a un recours par rapport à l'exécution provisoire. Ça pose des questions. Je pense que le législateur devra se poser cette question et peut-être permettre un recours par rapport à des exécutions provisoires. On l'a vu pour le procès de Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy et demain, ça sera sans doute quelqu'un d'autre. Mais toujours est-il que, au-delà de ça, c'est bel et bien l'ancien président de la République qui a été mis en cause, qui a été condamné, à mon avis, très très lourdement et inutilement, et c'est pour ça que j'en appelle au président de la République.
Merci Stéphane Le Rudulier, sénateur LR des Bouches-du-Rhône, pour cette réaction. Maxence Lambrec, il faut tout de même préciser que si Nicolas Sarkozy, ancien chef de l'État, ira en prison dans quelques jours et a été condamné ce matin, c'est bien pour des faits commis alors qu'il n'était pas président de la République, qu'il a été condamné en tous les cas pour association de malfaiteurs.
Et c'est pour ça que le délit de corruption n'est pas caractérisé et il n'est pas condamné pour ça, car il n'était pas en mesure de pouvoir rendre des services d'une certaine manière à la Libye. Il ne pouvait pas, de son statut de candidat, obtenir des choses pour ceux qui imaginaient le financer. C'est l'association de malfaiteurs qui a été retenue, c'est le laisser-faire potentiel qui a été retenu par le tribunal. Un nouveau procès complet commencera une fois qu'il fera appel. Claude Guéant est aussi condamné à 6 ans de prison. Brice Hortefeux est aussi condamné à une peine de prison ferme. Tout ce cercle-là, qui est toujours resté très fidèle à Nicolas Sarkozy, se retrouve aujourd'hui sous le choc, en stupeur. Et je peux vous dire déjà, par exemple, que dans la boucle des députés Renaissance, vous savez, ils sont 90 députés Renaissance, mais il n'y a pas un mot à l'instant où je vous parle, pas un mot pour réagir, car il y a cette espèce de vide. Que dire? Contredire le tribunal? Aller dans le sens de Nicolas Sarkozy sur l'état de droit qui est fragilisé par cette décision? S'exprimer sur la demande de grâce présidentielle que l'on vient d'entendre? Emmanuel Macron est rentré tout à l'heure à la mi-journée de son voyage aux États-Unis.
À New York.
Voilà, il n'a pas du tout prévu de s'exprimer avant potentiellement une conférence de presse lors d'un sommet européen la semaine prochaine. Mais c'est sûr que cette question fera florès dans les heures qui viennent. Et on rappelle Marine Le Pen qui, elle, dénonce cette exécution provisoire, ce mandat de dépôt différé. Le tribunal aura un mois pour convoquer Nicolas Sarkozy et fixer sa date d'incarcération. Donc dans le mois qui vient,
il pourrait être...
Il sera convoqué par le tribunal et il sera ensuite envoyé en prison.
On ira au palais de justice à nouveau dans un instant retrouver Sarah Guibaudot pour les derniers éléments, pour bien rentrer dans le détail de ce jugement ô combien important. Je voudrais accueillir une nouvelle invitée avant cela. Manon Aubry, bonjour.
Bonjour.
Eurodéputé La France Insoumise, Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison et bientôt incarcéré, mais relaxé, et notamment pour les faits de corruption passive. Comment est-ce que vous réagissez ?
Écoutez, aujourd'hui, la justice a rendu son verdict et j'ai trop de fois entendu Nicolas Sarkozy lui-même trouver que la justice n'est pas assez laxiste pour me dire qu'il y a quand même une sacrée ironie de l'histoire à l'entendre aujourd'hui critiquer ses jugements de justice en les trouvant trop sévères. Moi, je respecte l'indépendance de la justice. Il a été condamné pour association de malfaiteurs dans une peine qui est comprise dans le quantum de peine qui est possible pour ce type de faits qui sont extrêmement graves, ce qu'on lui reproche. Je rappelle que M. Kadhafi était un dictateur qui est associé lui-même à des actes de terrorisme. Et que la justice soit faite, c'est une bonne chose. Et par ailleurs, je rappelle que tout citoyen français, tout président de la République qu'il ait été, n'est pas au-dessus des lois. Et c'est précisément parce que trop souvent des hommes et des femmes politiques se sentent au-dessus des lois que la confiance dans la politique s'égrène, s'en va, s'étiole. Et je souhaite qu'avec ce jugement, qui est un jugement impartial, on puisse aussi quelque part rétablir une confiance dans la politique.
Mais est-ce que vous comprenez la décision de l'envoyer en prison alors qu'il fait appel et que donc la vérité définitive judiciaire dans cette affaire n'est pas encore écrite ?
Il est présumé innocent, en effet, le temps de l'appel. Mais si la justice a jugé nécessaire le fait qu'il aille en prison avec un mandat de dépôt, je rappelle par ailleurs que c'est ce que demande systématiquement la droite dans des cas de délinquance qui sont des délinquances qui n'impliquent pas des centaines de milliers d'euros. Donc là aussi, il y a un deux poids, deux mesures. Ils ont toujours pensé, vous voyez, ces gens-là, que vous soyez blanc ou noir, la justice... elle vous rendra puissant ou misérable. Eh bien, pour une fois, la justice, que vous soyez puissant ou misérable, elle vous a rendu ce qu'elle doit vous rendre. Et que la justice soit impartiale dans notre pays, nous n'avons pas à le regretter, y compris pour un président de la République, si ça doit l'emmener derrière en prison.
Merci Manon Aubry pour cette réaction, députée européenne La France Insoumise. Benjamin Morel, merci d'avoir patienté, vous étiez avec nous il y a une vingtaine de minutes, on a eu un petit problème de liaison avec vous, constitutionnaliste. Le débat porte aussi sur la question de l'exécution provisoire, Benjamin Morel. Faut-il envoyer un ancien chef de l'État en prison, sachant qu'il va faire appel ?
Ce débat sur l'exécution provisoire, c'est un débat qui est en effet un débat complexe, hein, parce qu'il faut bien voir que, en théorie, il ne porte pas atteinte au principe de présomption d'innocence, étant donné que l'exécution provisoire est là pour vous empêcher de réitérer un fait durant la période, qui est la période qui va entre, d'un côté, le prononcé de la peine, et de l'autre, le prononcé d'une possible peine en appel.
Là, les risques sont assez faibles.
Les risques sont assez faibles et donc on a une généralisation de ce principe dans plusieurs affaires, ce qui aujourd'hui interroge. Ça interroge notamment en matière pénale parce qu'en fait, si jamais il n'y a pas eu de requis, de réquisition de la peine provisoire par le parquet, eh bien il n'y a pas non plus de vraiment de contradictoire dans l'application de sa peine. À la différence du civil, comme ça a été évoqué tout à l'heure, vous n'avez pas de voie pour contester l'application provisoire. Donc, il y a peut-être même un sujet de constitutionnalité en la matière sur ce dernier point. Donc, c'est vrai qu'on a aujourd'hui une montée d'une réflexion sur ce thème-là. Après, le débat porte, en effet, et je rejoins votre précédente intervenante, souvent quand ces peines d'exécution provisoire sont appliquées aux politiques, mais en réalité, elles portent beaucoup plus généralement sur leur application dans toutes les affaires judiciaires. Et donc, c'est une interrogation qui ne se borne pas à Nicolas Sarkozy. C'est pas une exception de fait, entre guillemets, pour Nicolas Sarkozy ou pour Marine Le Pen.
Est-ce que vous interrogez sur la perception que vont avoir les Français de ce jugement et son impact, notamment sur l'image de nos responsables politiques ?
Il y a deux impacts. C'est-à-dire qu'en règle générale, dans toutes les affaires judiciaires, l'électorat est clivé en deux. Ceux qui soutiennent la personnalité qui est inculpée, qui est condamnée, considèrent que la justice lui en veut et ont une mauvaise image de cette justice. Quand vous regardez l'électorat de droite, l'effondrement de la confiance dans la justice de cet électorat date de l'affaire Fillon. L'électorat de droite est persuadé qu'on l'aurait privé de sa victoire. Le reste de l'électorat pense que la peine est juste et qu'entre guillemets, c'est bien fait. Donc, in fine, on a toujours cette double perception, cette perception très clivée, cette perception très politisée qui fait en fait deux victimes. D'un côté, l'image des politiques qui, en effet, aujourd'hui, est extrêmement mauvaise eu égard à ces affaires. Alors, ça n'est pas tout à fait d'hier, le tous pourri, etc. Vous en avez des affaires de Panama au 19e siècle, déjà sous la Révolution française, mais également la justice, dont l'image est de plus en plus aujourd'hui précaire dans l'opinion. Et ça représente un vrai risque à terme.
Merci Benjamin Morel. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale de ce 13-14 constitutionnaliste. Je voudrais remercier également l'ensemble de la rédaction de France Inter, Maxence Lambrec, Service Politique et Sarah Guibaudot, ainsi que Charlotte Piré au Palais de Justice de Paris, qu'on va retrouver tout au long de la journée. 13h58.